Aujourd'hui, c'est avec une vive émotion que je peux enfin parler à l'antenne.
Une femme, c'est pas juste un truc qui sourit et qui a la peau douce. Une femme, ça bouge, ça pense, ça évolue.
Sorcière.
Tu parles comme un homme. Tu bois comme un homme, ça ressemble à quoi, ça, franchement? Pas comme ça que tu as trouvé quelqu'un, je te le dis tout de suite.
Quand elle a son poum poum shot, et ton problème c'est simplement qu'elle s'en moque, elle te rend dingue. Why? Quand elle whine dans son shot, et y'a pas que chez toi qu'elle a causé qu'un choc, qu'elle est trop belle. S'il est trop maligne pour toi, tcho, dis-toi qu'une fille comme elle ne se dompte pas, laisse courir à boy, car ça devait finir comme ça. Un nom fantôme de plus sur son agenda.
Bonsoir, bonjour à toutes et à tous, chers auditeuristes, et bienvenue sur L'Autre Radio. L'Autre Radio au 101.7 à Laval et sur le 107.9 à Château-Gontier. Il est 19h et vous êtes bien dans l'émission Sorcière. Petit rappel pour les petites nouvelles ou les petits nouveaux. Chaque mois, l'équipe des sorcières vous bidouille et vous tricote avec sérieux. Une émission de société faite par des femmes, de la chronique à la technique, en passant par le choix de la musique. Dans nos émissions, les sujets sont vastes, même si les thématiques des luttes féministes sont régulièrement abordées. Il n'y a pas que ça. En fait, chacune ici vient aborder librement ce qui lui passe par la tête. Une chronique musicale, un billet d'humeur, de l'humour, des conseils de sortie culturelle, un portrait de femme oubliée, une chronique sportive et puis parfois des interviews de femmes inspirantes. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Restez curieux et à l'écoute. Pour cette émission du mois de mars, nous ne mettrons pas en avant la journée du droit des femmes. Il y a de plus en plus d'initiatives en ce sens partout et c'est très bien car il reste de nombreux sujets à faire avancer. Non, nous vous ferons pas un florilège des initiatives commerciales un peu nazes parce qu'on l'a déjà fait en 2022. Très drôle d'ailleurs, et écoutez-la. Et pour nous, le 8 mars, c'est tous les mois, à chaque fois que l'on prend l'antenne, on revendique notre place dans l'espace public. Moi, ce soir, j'ai plutôt envie de vous parler du spectacle La Tendresse que j'ai vu au théâtre à Laval le 12 mars dernier. La Tendresse, c'est une création de Julie Berès avec la compagnie Les Cambrioleurs. Je vous le dis, si vous en avez l'occasion, ici ou ailleurs, allez les voir. J'ai aimé ce spectacle, malgré un problème d'acteur et une adaptation de dernière minute. Il m'a beaucoup touchée parce qu'il interroge sur qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui. Ou plutôt, il fait s'interroger 8 jeunes hommes de divers horizons sociaux et culturels, de sensibilités différentes. Elle les fait s'interroger sur le patriarcat et la masculinité. Comment les hommes se construisent, le rapport à leur corps, le rapport à leur père, le rapport aux femmes, les rapports entre hommes. Ils interrogent les codes sociaux et les injonctions. La paternité aussi. Et moi, ça m'a fait du bien de voir des hommes qui se parlent entre eux, sans filtre, de leurs complexes, de leurs envies, de leurs victoires aussi, de ce que ça leur fait à eux, le patriarcat, de comment ils évoluent dans notre société actuelle. Qu'est-ce qu'ils en font, eux, de l'hashtag MeToo? C'est pas moi qui le dis, mais je vous le transmets. La Tendresse, c'est à la fois jouissif et joyeux, secoué tout du long d'une fracassante énergie collective. C'était vraiment cool. Mais revenons à nos moutons. Enfin, notre émission, à notre petite bonne femme de chemin, au petit vélo dans ma tête et aux femmes autour de la table. Sur les chemins d'une bonne émission de radio, nous avons ce soir une belle équipe pour faire tourner le petit vélo de cette émission. Louane, c'est la Janie Longo de L'Autre Radio. Le côté sportif, c'est elle. Donc je suis désolée, je ne me suis pas mis à la page Louane. Je ne connais pas de femme cycliste professionnelle actuelle. Mais de quoi vas-tu nous parler ?
Ce soir, je vais parler des Jeux Paralympiques.
Des Jeux Paralympiques, très bien. Et est-ce qu'ils font du vélo ?
Oui, tout à fait.
Oui. Eh bien, on a hâte, on te retrouve tout à l'heure. Anna, elle, a enfourché son VTT pour traverser les bois de l'Huisserie, parce qu'au moins, un VTT, c'est efficace et pratique, n'est-ce pas Anna ?
Ah oui, ça me ressemble tellement en plus.
De quoi va-t-on parler ce soir ?
On va parler voyage à vélo, mais pas de moi, avec mon invité, ma première.
C'est ta première invitée.
Oui.
C'est ta première invitée, mais surtout ta première interview.
Tout à fait.
Menée de main de maître, j'espère.
Voilà, je vais vous la présenter juste après.
Super. Cécile rame sur un vélo d'appartement, mais pleine d'énergie. Hein. Elle soulève des montagnes et arrive quand même jusqu'à nous parce que de l'énergie et de la bonne humeur, elle en a à revendre. Cécile,
oui.
De quoi on parle ce soir ?
On parle de la folie, folie des femmes, l'hystérie.
Ah ouais, carrément. Mais est-ce qu'on va en rire ?
Ce soir, chers auditeurs, nous n'allons pas rire. Non. Nous n'allons pas pleurer, mais nous allons constater.
Ok, très bien. Donc on te retrouvera en fin d'émission. Et je n'oublie pas Morgane et Margot, derrière la technique, en mode bucolique. Vous savez, avec un vélo vintage, un panier en osier, des fleurs sur les rayons. Bah, elles se baladent sur les rives de la Mayenne, quoi. Et surtout, on a Morgane qui apprend à faire la technique ce soir. Comment ça va, Morgane ?
Ça va.
Un petit peu stressée, mais
je me sens bien coachée là avec Margot.
Super. En tout cas, on a toute confiance en toi. Et avant de commencer, je te propose d'envoyer le premier son.
Jamais pensé à te marier.
Ah non mais oh, 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 oh.
Attendez, ça va là ou quoi?
Elle fait ce qu'elle veut, la meuf, hein, laisse-la vivre. Hein.
Et c'est sur cette jolie virgule, après la chanson Oh là là de Goldfrapp, que nous nous retrouvons avec les sorcières. Donc Anna, toi, oui. Tu nous as ramené une invitée.
Oui.
Ah, tu peux nous en dire plus?
Ce soir, j'ai invité Maëlle.
Ouais.
Et on a de la chance, elle est venue.
Yes.
Merci Maëlle. Et je suis ravie qu'elle soit venue parce qu'on s'est déjà rencontrés pour potentiellement parler de cette émission, et puis on n'a pas du tout parlé de l'émission. Donc ce soir, on va en parler. On va parler de ton voyage à vélo. Donc, je me disais, quoi de mieux que l'émission Sorcière pour parler d'un podcast sur les ondes de l'autre radio. Un podcast intitulé Grain de route, qui a été réalisé par Maëlle Guillet, ici présente, une future paysanne mayonnaise qui, je le pense, sourit autant à ses vaches qu'à la vie. Alors, Grain de route retrace un parcours de 2400 km à vélo dans l'ouest de la France, à la rencontre de paysans et paysannes du Nouveau Monde. Je me disais qu'on s'écouterait bien un petit extrait pour commencer.
Oui. Allez.
C'est ce qui anime aussi mon projet, c'est que j'ai envie que l'élevage continue, quoi. Enfin, j'ai pas envie de vivre dans un monde où il n'y a plus d'animaux.
Je pense que le faire ensemble dans la production agricole, c'est pas un sujet quelque part, c'est une évidence. On est des êtres sociaux avant tout, et la production agricole, elle s'est de manière millénaire faite collectivement.
Quand j'étais en Limousin, là, le moment où je me suis dit « en fait, faut être paysan », j'ai vraiment eu l'impression de prendre, comme dans Matrix, la pilule bleue ou la rouge, là, qui te fait voir le monde différemment. Et j'ai vraiment eu le sentiment, à ce moment-là, où je pouvais plus revenir en arrière, en fait.
D'avril à août 2023, j'ai enfourché mon vélo pour partir à la rencontre des paysans paysannes du Nouveau Monde. Depuis la Mayenne, mon territoire d'origine, j'ai parcouru 2400 km en passant par l'Orne, la Bretagne, la Charente. L'objectif, collecter des grains de route, des témoignages d'hommes et de femmes qui se sont lancés en agriculture paysanne. En collectif, en couple ou même seul. Le rêve derrière ce périple, c'est d'inspirer celles et ceux qui aimeraient se lancer, à commencer par moi-même. Et c'est déconstruire mes idées préconçues, mes utopies et mes peurs vis-à-vis du métier de paysan ou de l'installation en collectif, en partageant des bribes de réalité du monde paysan actuel. Je suis Maëlle Guillet et je vous emmène à la rencontre des paysans paysannes du Nouveau Monde, celles et ceux qui créent et font vivre l'agriculture de demain.
Alors Maëlle, bienvenue et merci d'être parmi nous ce soir. Mais dis-nous tout, qui es-tu? Et qu'est-ce que tu es partie chercher en enfourchant ton vélo pendant plusieurs mois? Et surtout, qu'est-ce que tu as trouvé?
Salut Anna, déjà merci parce que c'est un grand honneur d'être ta première invitée ici, c'est trop cool. Et d'être avec vous toutes là pour cette émission que je trouve géniale. Et donc, pour te répondre, pourquoi je suis partie pour ce voyage à vélo, en fait, pour moi, le projet là, de la paysannerie, c'est une reconversion. Je travaillais avant dans le domaine du tourisme et de l'économie sociale et solidaire. J'ai été quelques années à l'étranger et puis dans le sud de la France. Et puis, en fait, quand il y a eu cette envie qui s'est construite petit à petit de venir reprendre la ferme à la suite de mon papa, donc en Mayenne, donc retour aux sources, j'avais jamais vraiment travaillé dans l'agricole à part 8 mois de woofing que j'avais fait en Nouvelle-Zélande quand j'avais 18 ans, mais c'était pas que dans des fermes, quoi. Donc à la fois il y avait un besoin de venir remettre la main à la pâte et sentir si c'était vraiment un métier qui était fait pour moi, et donc il y avait cette envie là et il y avait un besoin aussi de déconstruire tout un tas d'utopies et de peurs que je pouvais avoir quant à la vie de paysan, paysanne, et donc d'aller rencontrer des gens qui le vivent en fait et qui ont choisi des modes d'agriculture qui sortent un peu des sentiers battus, et pour ouvrir mes horizons et pouvoir construire un projet qui me correspond. Et en fait, plus je commençais à parler de ce projet autour de moi, plus je me rendais compte qu'il y a plein de gens qui auraient envie d'aller vers la paysannerie, mais qu'osent pas se lancer, parce que justement, un peu les mêmes peurs, les mêmes idées préconçues par rapport à ce métier. Et donc, je me dis, mais en fait, les questions que je me pose, il y a plein de gens qui se les posent, et il y a vraiment besoin en fait, de renouer ce lien entre... entre bah, les paysans paysannes et les gens, quoi. Enfin, de la, enfin, l'alimentation, c'est quelque chose qui nous concerne tous et toutes. Et donc, voilà, il y a vraiment besoin de recréer ce lien. Il y a aussi un enjeu fort parce que là, dans les 10 prochaines années, c'est 50% des agris qui vont partir à la retraite. Ouais. Et donc, en fait, il y a un gros besoin aussi de renouveler, en fait, si on veut qu'il reste de la vie dans les campagnes en général et pas que de la vie agricole, parce qu'en fait, les agriculteurs et agricultrices, ils contribuent aussi à ce qui est de la vie dans les campagnes d'une manière générale, du social, des associations, des écoles avec des enfants, enfin, etc. Donc en fait, voilà, il y avait cet enjeu qui me tient à cœur, un peu militant, et donc bah, d'où l'envie de ce voyage, d'en faire quelque chose avec un support à partager. Donc d'où bah, le carnet de voyage que j'ai complété tout au long du voyage, et le podcast qui est... Il y a un épisode qui a été réalisé à l'issue du voyage, il y en a d'autres qui sont prévus de sortir. Et voilà, c'est un peu de là qu'est venue l'idée. Et puis la dernière chose, c'est aussi le besoin de... Entre ma vie d'avant, entre guillemets, dans le tourisme, et là, mon retour aux sources, je trouve que c'est important aussi de marquer des transitions, d'avoir des sortes de sas qui permettent de passer, en fait, d'une tranche de vie à une autre et d'intégrer, en fait, les changements et de préparer au mieux, bah voilà, qu'est-ce qu'on se souhaite et qu'est-ce qu'on a envie de créer, en fait. Et donc, j'avais envie de marquer ce pas avec... un voyage à vélo. J'avais envie de tester le voyage à vélo. Enfin, j'avais l'habitude de voyager seule, mais pas encore à vélo. C'est quelque chose qui me tentait depuis longtemps. Et je trouvais que c'était un mode de déplacement qui était en accord avec aussi mes convictions, l'envie de ralentir, d'amener de la lenteur et de, bah, en fait, aussi... pédaler, ça permet de dérouler la pensée. Ouais, et donc,
bon sas de décompression, ouais, voilà. La pédale.
Exactement.
Ouais, carrément. Bah, en parlant de ça, un voyage à vélo. J'ai plein de questions parce qu'on s'imagine quand même qu'il faut peut-être un minimum d'entraînement, il faut peut-être un peu de sous, il faut peut-être avoir des cuisses en béton. Est-ce qu'il faut avoir un bon sens de l'orientation? Et puis, par chez nous, l'ouest de la France, un bon caouet peut-être? Comment ça s'est passé pour toi?
Les cuisses en béton, je pense pas trop. Enfin, je pense que ça se fait au fur et à mesure. Enfin, je suis pas une grosse sportive de base. Enfin, je fais du yoga tous les jours à peu près. Donc, je me suis rendu compte que j'avais un cardio qui était meilleur que ce que je pensais.
C'est beau ça.
Mais en fait, le corps, il s'habitue très vite. Et je pense que ce qui est important, c'est d'aller, enfin, de pas chercher à vouloir faire 100 km dès la première semaine tous les jours, quoi. Enfin, d'aller de s'écouter, d'aller à son rythme. Et puis, en fait, le corps, il s'habitue progressivement, quoi. Donc ça, sens de l'orientation, bah aujourd'hui il y a des super applis pour ceux qui ont envie d'utiliser ça sur téléphone, qui te permettent de construire tes itinéraires au préalable et de les suivre. Donc c'est
ah oui,
très
t'avais
facile.
Ton téléphone du coup sur le vélo.
Bah, en fait, je regardais un peu je préparais mon itinéraire au jour le jour, quoi. J'avais dessiné grosso modo par là où je voulais passer au global, quoi. Mais après, au jour le jour, je dessinais un peu mon itinéraire suivant comment je me sentais. Et là, enfin, si j'avais un impératif pour le soir même ou pas, quoi. La plupart du temps, j'essayais de pas en avoir pour vraiment me permettre de, si j'avais envie de m'arrêter. Sauf quand c'était prévu des dates dans certaines fermes que j'avais contactées au préalable, en fait, dans lesquelles j'avais prévu d'aller faire du woofing. Et donc, mais après, on a aussi la chance d'avoir des super voies vélo partout en France et qui sont hyper bien fléchées. Donc, en fait, c'est... Si tu fais en sorte que ton itinéraire il passe par ces voies vélo là, il y a vraiment pas beaucoup de risques de se perdre. Et peut-être que c'est une chance aussi des fois de se perdre, parce qu'aujourd'hui ça n'arrive plus, justement peut-être à cause du téléphone. Et en fait, c'est dans ces moments là qu'on fait aussi les plus belles rencontres, et c'est là où il y a les histoires à raconter, quoi. Ouais, donc
oui. Rien que de demander son chemin.
Ouais, quoi. Voilà.
Ouais, carrément. Et du coup, on se regarde. Tu voulais poser une question?
Non, pas du tout, je te regardais pour
voir si. S'il y en a qui ont des questions sur le vélo, le voyage en lui-même à vélo ou les conditions. Non.
Bah, moi, ce qui m'inquiète, c'est comment tu dors en fait.
Oui. Alors, vas-y.
Comment tu dors à vélo? T'avais emmené une tente? Est-ce que c'était pas trop lourd? Est-ce que le duvet était assez chaud?
Souvent, c'est la grande question.
C'est un peu le confort, quoi.
Ouais, bah, ou justement le choix de la sortie de zone de confort. Moi, j'avais fait le choix de pas emmener de tente, mais plutôt de prendre un hamac, parce que j'adore ce mode de dodo, que je trouve que t'es vraiment en immersion dans la nature de manière très prégnante, quoi, et ça me plaît. C'est plus léger qu'une tente, parce que du coup, t'as pas de matelas, en plus, à trimballer. Donc, c'est, pour moi, c'était c'était tout bénef, puis c'était pas si galère que ça de trouver des arbres, quoi. J'avais investi dans un bon duvet quand même, et j'avais un Mac qui avait une moustiquaire intégrée, donc au moins t'es tranquille. Une petite bâche de pluie quand même pour protéger si jamais, qui peut aussi être mise au sol pour éviter qu'il fasse trop froid. Et,
non, la Rolls Royce du hamac.
Ouais,
quoi.
Voilà, c'est ça.
Ça donne envie de tester, hein.
Ouais, franchement, et... si vous avez l'occasion, c'est vraiment. Enfin, c'est magique quand tu vois, tu te réveilles le matin et t'as le lever de soleil là dans ton hamac. C'est vraiment, c'est des moments de grâce de fou, quoi.
Et tu dormais à chaque fois chez des personnes ou dans des lieux habités ou peut-être en pleine nature?
Ça dépendait un peu les deux. Quand j'étais entre d'une ferme à l'autre, j'aimais bien dormir en pleine nature. Ça m'est arrivé de faire quelques campings, des fois quand t'as envie de te faire le petit plaisir d'une douche chaude, quoi. Mais autrement, j'aimais bien dormir dans la nature. Et autrement, bah, quand j'étais en woofing sur les fermes, soit je dormais dans mon hamac sur la ferme lorsqu'ils n'avaient pas forcément de quoi me loger, ou des fois c'était dans un canapé dans un bureau de la ferme, ou des fois loger chez les gens, enfin voilà, ça dépendait.
Il y a eu des animaux la nuit?
Ouais, ça peut arriver, des chevreuils, des renards. Là, pendant ce voyage-là, j'en ai pas eu, mais sinon, des fois, des sangliers.
Des loups. Oh non, des sangliers, des loups. Ah non.
J'ai pas eu le loup encore.
Elle est partie à l'autre bout du monde.
Mais non, y a
tu
des
sais, tu peux
France,
venir
madame.
Au bois de l'huisserie avec moi, Cécile. Une nuit, hein, je t'emmène, il n'y a pas de problème.
Vous allez aller mettre un hamac au bois de l'huisserie, ça va être bucolique. Là, au moins, on est sûr qu'il y a des arbres. Est-ce qu'il y a des moments d'angoisse un peu ou des grosses galères parce qu'il pleut beaucoup? Et est-ce que tu as vécu ça sur tes 5 mois à vélo?
Là, sur ce voyage-là, en vrai, franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, j'ai pas eu de grosses galères. C'est pas drôle à raconter, du coup. Non, mais c'est ça va. J'ai même pas eu... Enfin, tu vois, j'ai eu une seule crevaison pendant 5 mois.
Okay.
Et en plus, elle est arrivée alors que j'étais déjà arrivée sur la ferme où je restais 15 jours. Donc, en fait, j'ai eu 15 jours pour réparer mon vélo
en
mode tranquillement.
Ouais, quoi. En plus, c'est Maurice du village d'à côté qui est venu avec sa rustine.
Non, j'ai réussi à me débrouiller, mais en même temps, j'avais un peu blindé mon vélo. J'avais tellement peur de crever que du coup, j'avais mis genre des pneus anti-crevaison avec la chambre à air anti-crevaison, avec la bande de Kevlar à l'intérieur. Total.
J'ai remarqué pendant les voyages que plus tu t'organises, et plus tu as tout ce qu'il faut en cas d'imprévu, moins il se passe un truc, en et fait.
Oui.
Hein, c'est ça. La seule fois où j'ai pas emmené de pharmacie en voyage, je vous dis pas comment j'ai dégusté.
Bon, en tout cas, ça fait une très bonne transition avec la prochaine question, parce que tu étais accueillie à la ferme, donc soit chez des couples, ou dans des GAEC, où c'était des associés, ou des familles. Et comment ça se passait? Est-ce que c'était facile de trouver ta place? Est-ce que du coup, tu faisais quoi la journée? Bah, t'as un peu répondu tout à l'heure, tu faisais un peu du woofing, c'est ça?
Ouais, alors peut-être juste, je précisais woofing parce que tout le monde ne connaît peut-être
ouais,
pas.
Ouais, carrément.
C'est un sigle et en gros, le principe, c'est on travaille 4-5 heures par jour sur des fermes en échange du gîte et du couvert. Donc voilà, c'est une super manière de rencontrer du monde, d'apprendre plein de choses, de se tester à des nouvelles choses, enfin voilà. Et de voyager en plus à moindre coût.
Ok, donc tu restais en général 4-5 jours?
Un peu plus, en général j'essayais de faire entre une semaine et 15 jours par ferme.
D'accord.
Ça permet vraiment de prendre le temps, parce que l'idée c'était pas non plus juste de dérafler, enfin de gratter la surface en fait, c'était de pouvoir vraiment prendre du temps pour échanger avec les gens et d'aller un peu plus en profondeur.
Le but c'était pas forcément de faire du vélo, c'était aussi d'aller à la
voilà,
rencontre.
Voilà, on va dire que le vélo c'était le moyen
De transport entre chaque...
Ouais, c'est ça.
Entre chaque paysan, paysanne.
Oui.
Ouais, c'est ça.
Et du coup, tu avais donc ton micro.
Oui.
Alors ça, c'est aussi une question qui m'intéresse beaucoup, parce que quand tu pars avec un micro, à quel moment est-ce que tu le sors?
Ouais.
Est-ce que c'est pas facile de trouver le bon moment? Est-ce que ça peut freiner les gens? Mais est-ce que, au contraire, ça a libéré la parole de certains?
C'est hyper intéressant. En fait, c'est vrai que je le sortais pas, j'arrivais pas sur la ferme direct avec mon micro.
Bah
quoi.
Oui.
En fait, ce que je remarquais, après, c'était ma technique, peut-être qu'il y a d'autres gens qui fonctionneraient différemment, mais moi, je voyais que souvent, je prenais le temps, j'attendais quelques jours. Quand je les avais contactés au préalable, je leur avais parlé déjà qu'il y avait ce projet avec les interviews, donc ils savaient, plus ou moins, parce que des fois, dans des collectifs, l'info, elle passe plus ou moins bien, dans les collectifs en général. Et en fait, du coup, j'attendais souvent quelques jours pour en fait, qu'il y ait déjà un climat de confiance qui s'installe et pour pouvoir voir à quel moment est-ce qu'on peut se caler avec telle ou telle personne, qui a envie déjà de témoigner, parce que des fois, pareil, sur des collectifs, tout le monde n'a pas forcément l'envie ou le... Ça demande une forme de courage aussi, pouvoir se mettre face à un micro, même si c'est moins impressionnant que devant une caméra. Et donc, on essayait de se caler des temps avec les personnes qui avaient envie pour échanger sur. Enfin, moi, j'avais une trame de questions qui était plus ou moins établie, mais de laquelle je m'autorisais aussi à prendre des virages en fonction de comment avançait la discussion, quoi. Et voilà. Et puis, j'aimais bien aussi aller choper des ambiances sonores des fermes.
Oui, c'est génial.
Ouais,
ça.
C'était un trop, trop chouette exercice.
Ah, trop bien.
Et du coup, moi je me disais que tu as fait un podcast, mais tu as aussi écrit un blog pendant tout le temps de ton voyage.
Oui.
Ouais.
Ouais.
Et ça, tu le faisais à quelle fréquence à peu près? Ça venait nourrir aussi cette réflexion peut-être?
Oui, complètement. Pour moi, ça passe beaucoup par là en fait. Avancer dans mon projet, j'ai besoin de passer par du partage, qu'il soit oral ou écrit. Et en fait, ça me permettait de me délester de ce qu'il pouvait y avoir dans ma tête, en fait, de le mettre à l'écrit. C'était aussi un chouette moyen pour ma famille et mes amis de pouvoir suivre un peu le voyage. D'autant plus que j'ai plein de gens qui m'ont soutenue en amont du voyage. Tu demandais tout à l'heure, est-ce que ça coûte des sous?
Oui.
Je t'ai pas répondu, mais là, du coup, j'y réponds. C'est que, en fait, j'ai fait un petit financement participatif avant de partir, justement pour éventuellement un peu de matos vélo et puis un peu de matos son. Et en fait ça a hyper bien marché, j'avais mis un objectif de 2 000 euros et en fait il y a eu plus de 90 contributeurs, il y a eu plus de 3 600 euros je crois de collectés, enfin, j'étais complètement hallucinée, non pas tant du montant mais en fait de la puissance des soutiens quoi, que du j'ai soutien. Pu recevoir de la part des gens, de voir à quel point le projet en fait il résonnait chez les gens et ça c'était hyper fort, enfin, je partais là, le 4 avril 2023 et avec cette impression,
t'étais pas toute seule à partir.
Exactement,
quoi,
c'est ça.
Ouais, ah, c'est trop fort. Beau.
Ça permet d'avoir une prolongation de l'énergie, de cette énergie du départ, peut-être,
ouais.
écrire le blog et avoir des...
Exactement.
Des
ouais, c'est ça, de voir que... Ouais, et puis, c'était aussi une manière de... Alors, même si il y a eu un ou deux lieux où j'ai pas écrit les articles, parce que aussi, voilà, des fois, on se fait prendre aussi par le temps, malgré tout, et puis bien une sûr. Fois qu'on est de retour de voyage, on est dans d'autres choses. Donc, il y a deux lieux sur lesquels, jusqu'à maintenant, j'ai pas écrit les articles. Peut-être que je les écrirai un jour. Dans tous les cas, j'espère pouvoir, au moins, les intégrer dans les épisodes du podcast qui restent à sortir.
Bien sûr. Okay. En tout cas, moi, je conseille vraiment les auditeurs d'aller lire, en tout cas, le blog ou d'aller écouter le podcast, parce que tu as une vraie plume, quand même.
Ouais, c'est
une
gentil.
Une plume
merci.
Très journalistique, j'ai trouvé, en tout cas.
Carrément. On donnera toutes les infos sur la petite page
évidemment.
Des sorcières. Et du coup, après ces quelques mois de voyage, est-ce que tu t'es dit... Oui, c'est compliqué, l'agriculture paysanne. Est-ce que au vu des systèmes qui s'intensifient, des revendications qu'on a depuis des dizaines et des dizaines d'années...
dont la dernière en date est très récente.
Voilà,
hein,
ouais. Ça peut faire peur. Toi, t'en es ressorti comment et qu'est-ce qui fait qu'on se lance tout de même?
Moi, j'en suis ressortie plutôt vraiment boostée, quoi, de me dire « ouais, c'est... ça me parle à fond et c'est vraiment vers là que j'ai envie d'aller, en ayant toute la conscience des difficultés en fait qu'il va y avoir, que rencontrent déjà ces personnes qui le vivent au quotidien, que ce soit lorsqu'on travaille en collectif, avec les difficultés que peut amener justement le facteur humain et qui fait aujourd'hui exploser beaucoup de GAEC, qu'on soit en conventionnel, en agriculture paysanne ou autre hein, d'ailleurs, mais c'est aussi en fait une telle richesse de pouvoir se dire qu'on fait ensemble, qu'on peut compter les uns sur les autres, qu'on peut se remplacer lorsqu'il y a des coups de mou, et enfin pour moi en tout cas, qui est vraiment cette appétence à partager et à être dans le collectif, bah ça me parle à fond et ça me donne de l'énergie et du courage, quoi. Et puis, de se dire qu'en fait, il y a sûrement de l'utopie hein, dans ce que je dis et dans mon approche, hein, mais en fait, je pense que j'ai envie de cultiver ça. De se dire que là, on arrive à un point de non-retour pour toute une partie de notre système agricole et qu'en fait, il y a plein de choses à créer. Et moi, ça me motive à fond de se dire, bon, bah voilà, il y a déjà des gens qui créent plein de choses trop chouettes depuis des décennies. Et en fait, il ne s'agit pas non plus complètement de réinventer l'eau chaude. Il y a sûrement des choses encore à inventer, mais il y a aussi des choses à perpétuer, en fait, de ce que les générations précédentes ont à nous transmettre. Et donc, voilà, il y a ce jeu-là que je trouve hyper passionnant de comment est-ce qu'on amène une continuité en amenant aussi notre patte et ce qui nous fait vibrer, en fait, et ce qui nous donne envie d'aller de l'avant et de créer des futurs qui puissent être souhaitables pour nous, pour les générations qui vont venir.
Et du coup, ce serait plutôt de la paysannerie en collectif.
Pour moi, oui. Ouais. Toi, oui. Et enfin voilà, en tout cas là pour le moment c'est là-dedans que je m'engage a priori. Peut-être que ça évoluera hein, tout au long de ma vie, on n'en sait rien. Mm-hmm. Mais pour ouais, je sens que j'ai envie de tester ça en fait. Okay. Et d'essayer de reconstruire ça.
Mais comment tu fais en fait? Tu postes une annonce sur Facebook en disant « Moi, je cherche des copains agriculteurs, je veux un qui fait du miel, l'autre qui fait des herbes, et puis l'autre qui fait du poulet.
» Bah tu sais, t'es pas loin de la réalité. J'ai okay. vraiment posté une annonce sur Facebook.
Bah, tu peux faire ton annonce à l'autre radio ce ouais. soir, vas-y.
Non mais c'est trop cool parce que j'ai eu plein de réponses en fait à cette annonce. Je l'ai postée en revenant de mon voyage à vélo en septembre, au moment où j'ai débuté ma formation, et je l'ai diffusée effectivement sur Facebook et sur les réseaux paysans un peu du coin quoi. Et pour en me présentant et en me présentant un peu voilà c'était quoi ma vision du projet, le lieu que j'avais à proposer et tout ça. Et puis bah du coup là je suis en réflexion avec notamment deux personnes avec qui c'est un peu plus engagé quand même, où depuis septembre on se voit à peu près une fois par mois. Et voilà, donc c'est le tout début, on sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas pour le moment ça nous plaît bien d'apprendre à se connaître déjà et puis de voir qu'est-ce qu'on pourrait envisager ensemble quoi.
Mais ce qui est important à dire aussi c'est que tu as un lieu à reprendre.
Oui. Ouais. Ouais, complètement, c'est vrai que je l'ai pas précisé jusqu'à ouais. maintenant.
Si tu l'as dit au début.
Oui, c'est vrai.
Ouais, ouais, ouais. Mais ça c'est quelque chose qui est différent qu'on ait un lieu ou pas.
Complètement.
Il me semble hein, si ouais, tu ouais. peux en parler un petit peu.
Bah oui, c'est sûr qu'aujourd'hui l'accès au foncier en fait c'est peut-être un des premiers points de blocage pour les gens qui veulent aller vers l'agriculture paysanne et qu'ont pas, enfin, ou l'agriculture en général, et qu'ont pas déjà un lieu potentiel, soit de reprise familiale ou en propriété. Là, nous, on n'est pas en propriété sur cette ferme, mais ce qui est rigolo, c'est que je vais être quand même la quatrième génération de ma famille sur ce lieu-là.
Mais c'est trop beau.
C'est vrai que c'est une sacrée chance.
Mmh. Bah oui.
Et c'est cette envie de transmission de la famille qui t'a fait te poser la question
ouais.
de la paysannerie ou pas?
Ouais, complètement. Bah, en fait, il y a eu une sorte d'alignement des planètes où ça correspondait. Moi, les réflexions et mes envies de retour à la terre correspondaient au moment où mon papa il commençait à réfléchir à son départ en retraite, à sa transmission. Et en fait, moi, j'ai deux frères et que ce soit eux ou moi, aucun de nous, a priori, là, n'était parti pour aller bosser dans l'agricole. Mais il nous a quand même informé que voilà, on sache que c'était une possibilité en fait, que en tant que fils et filles d'agriculteurs, on pouvait prétendre à être prioritaire sur la reprise des terres si on en avait envie et si on était formé pour, bien sûr.
Mmh, ok.
Donc en fait, moi, ça a fait son chemin. En même temps, j'étais dans le sud de la France, je réfléchissais avec des amis peut-être à la création d'un collectif dans lequel il y aurait eu notamment de l'agriculture, quoi. Mmh. Et puis ça a fait son chemin. Et puis en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que si je voulais faire ce projet de retour à la terre vraiment par souci en fait de cohérence avec mes valeurs et d'agir dans du concret en fait, comment j'ai envie d'œuvrer dans ce monde aujourd'hui, bah en fait c'était la paysannerie pour moi qui faisait le plus de sens à ce moment-là de ma vie quoi. Okay. Et donc bah voilà, là il y avait l'opportunité qui se présentait, les dates pouvaient correspondre. Mon papa il était prêt à faire un an de plus que ce à quoi il était autorisé à partir, que la date à laquelle il était autorisé à partir par rapport à ses semestres. Et en fait c'était une super belle opportunité de se faire un peu comme, je le vois un peu comme un cadeau mutuel en fait qu'on peut se faire de lui, enfin moi lui permettre de transmettre en fait tout ce qu'il a acquis pendant toute sa carrière et son métier quoi. Et puis bah, lui, du coup, de me permettre de faciliter mon propre retour à la terre. Quoi.
Et ça n'a pas été un souci pour lui de transmettre à sa fille et pas à ses fils?
Non. Pour le coup, j'ai la chance d'avoir un papa qui est super...
moderne.
Ouais. On peut dire ça, ouvert. Enfin, non, pour lui, ce n'était pas un sujet.
Et toi, contrairement aux néo-ruraux qui connaissent rien, qui sont dans des bureaux à Paris et qui se disent « Moi, j'ai envie de nature, j'ai envie d'entendre le chant du coq le matin. » Toi, quand même, t'as roulé ta bosse et t'as vu plein de choses en woofing qui t'a permis vraiment de voir ce que c'était. Ce travail qui est quand même, il faut le dire, il demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Et tu en es consciente aussi peut-être depuis que tu es petite?
Ouais, en partie, je pense. Je pense que pour le moment, pour y avoir pas non plus travaillé... sur du long terme, je pense que même moi il y a des choses que j'appréhende pas, mais oui il y a des choses effectivement je me rends compte qui sont quand même aussi déjà intégrées, parce que oui j'ai grandi sur cette ferme, donc forcément quand t'es enfant d'agriculteur ou d'agricultrice t'es sollicité de temps en temps sur la ferme, donc il y a des choses qui me sont déjà familières. Et pour autant là je me rends compte quand je fais mes stages là pendant ma formation pendant ma formation agricole que je fais en ce moment, bah il y a des choses où je suis aussi à mille lieues, quoi, parce que tout ce qui est machine agricole, mécanique par exemple, c'est hyper loin de moi, et donc j'ai un gros chemin à faire là-dessus, et puis je me mets aussi je pense pas mal de pression là-dessus parce que j'ai envie de montrer que je suis capable, et donc ouais, c'est un équilibre à trouver aussi là-dessus.
On était en train de parler du fait que tu sois une femme. J'avais quand même envie de parler un peu de la place des femmes dans ce monde agricole qui reste quand même majoritairement masculin, où le patriarcat est quand même encore très très ancré. Les femmes qui travaillaient pourtant autant que les hommes à la ferme avant étaient seulement considérées comme la femme du chef d'exploitation. Il y a eu un premier statut en 99 qui leur ont permis de devenir conjointes collaboratrices. Et depuis 2010, merci la Confédération paysanne qui a beaucoup œuvré pour, grâce au statut de GAEC, entre époux, du coup, les femmes ont désormais un accès à leurs droits de manière individuelle. Alors, est-ce que pour toi, c'est plus compliqué de devenir paysanne que paysan ? Et...
Ouais, c'est complexe comme question. Je ne dirais pas que j'ai une réponse oui-non. Je pense que oui. Ça dépend beaucoup de l'histoire de chacune, de l'environnement dans lequel on est aussi. Parce que typiquement, je vois des femmes là, de mon entourage, soit qui travaillent déjà dans la paysannerie ou qui sont en formation pour. En fait... si ta famille déjà et tes proches te soutiennent dans ton projet et croient en toi, suivant ton caractère, si t'as besoin en fait de ce miroir extérieur pour sentir que t'en es capable, bah en fait ça va faire une grosse différence. Si t'es déjà quelqu'un voilà qui y va, peu importe si les gens autour te soutiennent ou pas, ça veut pas dire que ce sera moins un parcours du combattant. J'ai rencontré pendant mon voyage à vélo des personnes qui ont eu des cheminements très complexes par rapport à ça, parce que justement l'entourage n'avait pas forcément foi en la personne.
Il y a un super podcast sur Arte Radio, oui. Un podcast à soi qui reprend les femmes et l'agriculture.
Yes. Ouais.
Je vois le temps qui file, et c'est passionnant, mais on a aussi deux autres chroniqueuses et de la musique. Donc Anna, est-ce que tu nous conclues cette interview que tu as menée magnifiquement?
On conclut. Maëlle, tu as réalisé un podcast de 50 minutes de grande qualité. C'est vivant, c'est intéressant, c'est vraiment chiadé niveau technique. D'ailleurs, j'étais très jalouse en l'écoutant. bravo pour ce travail.
Bravo
merci
à
de le
frère,
faire partager.
Baptiste.
Et à... Ah, bravo à ton frère. Et de donner, je l'espère, l'envie à toutes celles et ceux qui ont le cœur et l'envie d'un retour à la terre, de rencontres, de partage, de défendre des valeurs du local, de la liberté, des haies bocagères et tout ça. Voilà. merci d'être venue et on se quitte avec le morceau
que tu as choisi, Maëlle.
Voilà, de Anne Sylvestre, qu'on adore, qui s'appelle Bergère.
Ah, dis-moi donc, bergère, à qui sont ces moutons? Monsieur, à la bergère, qui se les achetions? Et mon pied au derrière, devinez qui l'auront? Ah, dis-moi donc, bergère, comment me parle-t-on? Monsieur, pour vous y faire, on a changé de ton. Et mon pied au derrière n'est pas pour mes moutons. Ah, dis-moi donc, bergère, mais que s'est-il passé? Ce n'est pas du tout ce que mon père et mon grand-père m'ont raconté. Ils m'ont dit que les filles n'attendaient plus que moi, qu'avant de fonder une famille, je devais m'amuser comme un roi. Ah, dis-moi donc, bergère, tu as de bien beaux yeux. Vous parlez de mon derrière, je le sais bien, monsieur. Mais c'est pas votre affaire, le touche qui je veux. Bergère, allons, bergère, tu n'y es pas du tout. Moi, je voulais te faire un brin de cour, c'est tout. Enfin, voilà des manières, votre cour, je m'en fous. Dis-moi, dis-moi, bergère, pour qui te prends-tu donc? Sois dit sans vouloir te déplaire, tu as le nez beaucoup trop long. Tu as la taille fine, la jambe beaucoup moins. Tu n'as pas assez de poitrine et tu aurais besoin d'un shampoing. Ah non, vraiment, bergère, à bien te regarder. Vraiment, tu exagères de tant me résister. Tu devrais être fière que je t'ai remarqué. Monsieur dit la bergère, ne faites pas rigoler. C'est que votre grand-père vous a pas expliqué. C'est que je les préfère un peu mieux baraquer. Et la pointe la bergère, le soleil dans les yeux. N'en déplaise à monsieur votre père, vous n'êtes pas terrible mon vieux. Suffit pas que le coq chante pour qu'on vienne en gloussant. Pour en trouver de plus causantes, faudra changer votre compliment. Tu te trompes bergère, j'ai une fiancée qui a d'autres manières et qui sera comblée. Parce que je vais lui faire le 10 du mois de mai. Je sais, dit la bergère, elle est pas mal du tout. Et puis elle est pas fière, elle s'amuse sans vous. Avec mon petit frère dans le pré en dessous.
Elle est pas fraîche la bière.
C'est pas grave, Steph, nous on l'est.
Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil.
Sorcière.
Sorcière.
Bienvenue sur Sorcière.
C'est bon pour le moral. Mais oui, sorcière, exactement, c'est bon pour le moral. En tout cas, merci à toi, Anna, d'avoir invité Maëlle. C'était passionnant et on aurait encore 1000 questions à poser. Mais on va passer au sujet suivant, puisque les Jeux Olympiques approchent. Et heureusement, nous avons notre Jeannie Longo de l'autre radio pour nous mettre un petit peu à la page. Du coup, Louane, toi, tu voulais nous parler du sport paralympique.
Tout à fait. Alors, chers auditeurs, on se retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre épopée sur les Jeux Olympiques. Nous avons déjà pu parcourir son histoire, ses valeurs, ses revendications, ses athlètes, mais nous sommes loin d'avoir abordé tous ces aspects tellement ces Jeux ont un grand rayonnement sur la scène mondiale. En effet, qui dit Jeux Olympiques dit performance sportive, et il y a justement d'autres Jeux qui en comptent de tout aussi impressionnantes, les fameux Jeux Paralympiques. Ces Jeux, justement, sont étroitement liés avec les Jeux Olympiques, comme le préfixe para le laisse entendre, qui signifie à côté ou parallèle, et a donc pour viser d'illustrer l'interdépendance des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ces Jeux Paralympiques ont été créés après la Seconde Guerre mondiale par un médecin pour réinsérer les blessés de guerre dans la vie civile via le sport. Encore un vaste sujet, le sport étant vraiment une plateforme d'inclusion et une aide précieuse dans la vie de tout un chacun. Et pour la petite histoire, on retrouve dès 1888 à Berlin des clubs sportifs, notamment pour les sourds. Les Jeux paralympiques, eux, ont été créés à Stoke Mandeville, c'est en Angleterre, par le docteur Sir Ludwig Gutmann.
Of course. Tu t'appliques, hein, on le sent.
On y met du cœur. Ces derniers avaient une visée thérapeutique en améliorant la rééducation ainsi que la réhabilitation de ces personnes en situation de handicap. Donc c'était pas forcément pour les performances sportives qui étaient recherchées, mais vraiment l'utilisation du sport comme un outil médical pour retrouver une certaine autonomie et une certaine appétence aux activités quotidiennes. Et pour citer ce même médecin, jusqu'alors, les problèmes étaient sans espoir. Car il fallait non seulement sauver la vie de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants paraplégiques et tétraplégiques, mais encore, il fallait leur redonner leur dignité et en faire des citoyens heureux et respectés. Et pour cette première édition, qui se déroule précisément le 28 juillet 1948, donc le jour de l'inauguration des Jeux Olympiques de Berlin, on y compte 16 participants. À titre d'exemple, aujourd'hui, les Jeux de Paris, nous en attendons 4400, avec plus de 160 participants. Ces fameux Jeux paralympiques sont associés officiellement aux Jeux olympiques depuis seulement 1960 et se déroulent juste après ces derniers. Avant 1960, ils étaient appelés du coup les Jeux internationaux de Stoke Mandeville. Et en cette année, on retrouvera 400 athlètes à Rome qui étaient issus du coup de 23 nations, pour s'affronter autour de 8 sports, qui étaient le para-athlétisme, le basket fauteuil, la para-natation, le para-tennis de table, le billard, le para-tir à l'arc, on a bientôt fini, le dart sherry.
Le quoi?
Le dart sherry.
Okay.
C'est un genre de... un peu comme entre les fléchettes et le tir à l'arc.
Ok.
Et l'escrime fauteuil. Et oh, on en apprend partout. Et la pratique est du coup évidemment adaptée suivant le handicap de chacun. Et ces jeux, en fait, ils visent plutôt quand même les personnes qui sont porteuses d'un handicap physique. Parce qu'on a seulement 3 disciplines qui sont ouvertes aux déficients mentaux. L'athlétisme, le tennis de table et la natation. Du coup, ouais. Ceux-là sur 23 disciplines qui sont représentées. Comme notamment le basket fauteuil et la boccia. Et quoi de mieux pour vous en parler que de le pratiquer ?
La boccia, c'est pas un jambon italien, ça ?
Si,
peut-être aussi.
T'avais dit qu'on n'allait pas rire, Cécile.
Et justement, en prévision de la journée nationale du sport et du handicap qui se déroule chaque 23 mars, j'ai eu l'occasion de me confronter à ces deux sports. Donc le basket fauteuil, de nom, je pense que ça vous parle.
Ouais.
Mais la boccia, non. Qu'est-ce que c'est à part un jambon italien ? Donc, originaire d'Italie, forcément, ce sport s'apparente à de la pétanque en salle,
avec
des boules revêtues de cuir.
Ah ouais, ok.
Donc, le but, en fait, étant de se rapprocher du cochonnet, comme à la pétanque traditionnelle. Et pour cela, il y a des rampes et des dispositifs d'assistance pour lancer les boules qui sont mis à disposition, afin justement d'offrir à chaque athlète la même chance de réussite. Plutôt sympa, sympa comme sport, je l'avoue. Ça m'a rappelé les parties de pétanque en été autour d'une belle bonne boisson fraîche, pour pas dire une bière.
T'as le droit de le dire. C'est pas parce que tu parles de sport que...
mais je voulais, moi, ce soir, mettre l'accent sur le second sport que j'ai pu tester, donc le basket fauteuil. Car oui, de prime abord, on se dit, en l'occurrence, moi, je me suis dit, qui suis valide, devrait pas y avoir trop de difficultés particulières.
Oh. Bah oui. Si, t'as déjà essayé de faire un shoot assis.
Bah c'est justement ça.
Bah oui, c'est hyper compliqué.
Justement.
On n'a pas changé pour la hauteur du panier, si ? Non, elle est comme nous.
Non, c'est un peu plus bas quand même.
Oh là là.
Donc ok, il faut apprendre à manier le fauteuil. Mmh. Mais le plus dur n'est pas là justement, c'est d'essayer de lancer le ballon assis. Mmh. En étant assis, forcément, pas de poussée de jambes. Donc ça devient un tout autre sport que le basket traditionnel. Mmh. Donc, gros gainage oblige, il faut venir proche du panier pour avoir une chance de marquer. Sans parler des contacts fauteuil à fauteuil, car oui, dans ce sport, ils sont autorisés, même voire encouragés.
Ah ouais, ça se percute c'est comme à l'auto-tamponneuse.
Ah, c'est les auto-butantes,
ouais.
Quoi.
Ouais, okay. Auto-tamponneuse fauteuil, là. Wow. Et tout à fait. Donc, je dois dire que l'exercice, il a été fort instructif pour vraiment appréhender les subtilités de la pratique d'un sport ici en fauteuil. Et en effet, en règle générale, la pratique de ce sport ou de tout autre sport, de tout autre handisport, permet de justement sensibiliser les différents joueurs à la réalité des personnes en situation de handicap et de mieux comprendre leurs difficultés. Également, ça permet de développer une plus grande empathie et une solidarité envers cette communauté. Et à plus grande échelle, les Jeux paralympiques permettent de promouvoir l'inclusion en prouvant par ces milliers d'athlètes que le handicap n'est pas seulement une limitation, mais vraiment en fait un défi à relever. Et c'est vraiment une source d'inspiration pour que chacun, en mettant en avant des valeurs comme le courage ou la détermination. Et justement, la médiatisation de ces Jeux paralympiques permet de développer petit à petit le sport adapté dans les différents clubs qui, comme je l'évoquais en début de chronique, permet à chacun de s'inclure plus facilement en fait, dans la vie civile parce que c'est aussi un moyen de partager avec d'autres et de vraiment faire un peu comme tout le monde. Parce qu'il y a certaines activités forcément qui ne sont pas ouvertes à tous. Et ce sport adapté permet petit à petit de s'y approcher. Et pour ces fameux Jeux de Paris, donc en quelques chiffres, c'est quand même la 17e édition des Jeux paralympiques. Avec 184 comités nationaux paralympiques qui représentent 23 sports. Pour 11 jours de compétition, plus de 4400 athlètes. Qui participeront à 549 épreuves et plus de 3 millions de spectateurs attendus, dont peut-être vous, qui sait. Du coup, ne serait-ce que par curiosité, je vous invite à suivre ces jeux sur les chaînes françaises à partir du 28 août 2024 ou même de tester un handisport. Car oui, c'est ouvert à tous, personne en situation de handicap ou non.
Mais alors, si on veut tester un handisport, Louane, comment on fait? Parce que toi, je ne sais pas comment est-ce que tu as eu cette opportunité-là.
Alors moi, j'ai eu cette opportunité parce que j'habite dans un habitat jeune qui propose toutes les semaines des activités. Et je pense que c'est une association qui les ont contactés pour venir tester.
Pour venir vous proposer.
Exactement. Donc sur Laval, il y a diverses associations. Ouais. Donc se rapprocher d'elles, je pense que c'est ouvert à tous. Même serait-ce que pour tester, ça peut être toujours une bonne expérience.
En tout cas, du basket fauteuil, ça existe à Laval.
Tout à fait. Et de la boccia, du coup, au moins.
Ok.
Et la boccia. La boccia de la mama.
Et pourquoi les Jeux paralympiques se passent après les Jeux
olympiques?
Oui. Ça, c'est pas possible de les faire en même temps.
C'est possible, mais c'est, je pense, par souci d'organisation et de facilité. Et surtout que certains...
Tu poseras la question au comité.
Oui.
Je ne sais pas si Louane a la réponse.
Je n'ai pas compris. Pourquoi.
Louane n'a pas la réponse.
C'est juste, c'est que ça a été organisé comme ça.
Oui. Mmh.
Okay.
Il n'y a pas forcément de...
Et puis c'est depuis de longues dates. En tout cas, moi je suis assez surprise d'apprendre que les premiers Jeux paralympiques existent depuis 1948.
Bah, ils sont depuis 1948, mais officiellement, c'est 1960.
Tu as 17 ans, non, tu disais.
Non, je n'ai pas calculé par contre, mais je vous laisse.
Ça fait 63.
Je laisse les matheux le faire. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup Louane pour cette découverte. On en découvre toujours un peu plus tous les mois sur le sport et notamment dans la visée des Jeux Olympiques. Maintenant, je dirais qu'on quitte un petit peu les chemins cyclistes, on descend de notre vélo de compète et puis on va repartir un petit peu plus sur les chemins de Mayenne, sur les chemins de la folie aussi, a priori. Mais ça va, Cécile? T'as l'air joyeuse aujourd'hui. Non, t'as pas l'air joyeuse aujourd'hui. Ça va, Cécile? T'as pas l'air joyeuse aujourd'hui.
Bah ouais, Steph, j'ai peur. Ouais, j'ai peur qu'on m'enferme. En fait, on me dit souvent que je suis folle alliée.
C'est vrai qu'on te le dit souvent.
C'est vrai, hein. C'est vrai, ouais. Ouais, bah ouais, c'est sûr.
Il y a quelqu'un qui t'attend derrière. C'est ça, les
gyrophares. Bah ouais, c'est sûr que j'ai des idées saugrenues, j'ai plein de monde dans ma tête et je souffre d'incontinence verbale. Des fois, je peux pas me retenir, je vide le contenu de ma tête sur qui voudra bien m'écouter. À une époque, on m'aurait traité de sorcière mise à griller sur le bûcher. À une autre, on m'aurait interné à l'asile de fous. D'ailleurs, je me suis renseignée sur les asiles. À certaines périodes de l'histoire, c'était hyper tendu pour nous, les meufs. Rien qu'aux États-Unis, fin 19e, au Blackwell Island Asylum, il y a une femme courageuse. Ouais, je sais, c'est un pléonasme. La journaliste américaine Nellie Bly, une femme extraordinaire, pionnière du journalisme d'investigation, en gros, la Élise Lucet d'époque, elle est engagée par le journal New York World afin d'enquêter sur le traitement des femmes dans cet asile new-yorkais en 1887.
Mais alors, comment elle a fait? Parce qu'elle a fait de l'investigation dans un asile, mais quand tu rentres à l'asile, c'était un peu à vie à l'époque quand même, on n'en sortait pas comme ça.
Exactement, Stouff, ouais. C'était pour toute la vie. Elle s'est fait interner, et c'était plutôt fastoche de se faire interner. À ses risques et périls, elle y passe pas moins de 10 jours, durant lesquels elle constate les conditions d'hygiène déplorables. La nourriture avariée, de l'eau souillée, des bâtiments infestés, des infirmières sadiques qui battent les malades. Ouf! Au bout de 10 jours, son boss, Mr. Pulitzer, arrive à la faire sortir. Oui, c'est bien lui qui a donné son nom au prix Pulitzer. Son article, en sortant, est un réel succès et lance sa longue carrière.
Alors ça, c'était aux États-Unis, hein, de l'autre côté de l'Atlantique, mais alors en France?
Chez nous, c'était pareil? Non, chez nous, c'est pas rose. Pas du tout. Hein. On a l'équivalent, donc, chez nous, en France, et à la même période, ça se passe à Paris, dans l'hôpital de... Vous le connaissez peut-être ?
La Salpêtrière.
Oui, c'est ça,
Anna. La Salpêtrière.
Ouais. Donc, vous en avez entendu parler, peut-être, et c'est pas joli, joli. Donc, ce soir, on parle de l'hôpital de la Salpêtrière. Après 1882, à l'arrivée de la star de la neurologie, le docteur Jean-Marie Charcot, mondialement connu pour ses avancées dans le domaine neurologique. Avant lui, on n'avait pas du tout pensé à soigner les fous dans cet asile de femmes. Mais quel était le sort réservé à toutes ces désaxées, déséquilibrées, aliénées et enfermées à vie? T'en ressors pas. Seuls deux en sont sortis. Jeanne Avril est une fugitive. Pour comprendre ce qui se passe au sein de cet asile de femmes, nous allons profiter du bal des folles.
Du bal des folles.
Ouais, du bal des folles. C'est comme ça qu'on l'appelait.
D'accord, ok.
Une fois par an, un mardi gras, le docteur Charcot organisait un bal déguisé. Cette soirée, durant laquelle la haute société parisienne venait s'encanailler avec les folles déguisées. Rien à voir avec l'émission télé du Papotin sur France 2. D'ailleurs, fin 19e siècle, l'écrivain Georges Darien, dans son livre Le Voleur, écrit de ce bal. C'est le jour béni où toutes ces pauvres créatures, les vraies, cette fois qu'un amour malheureux, la perte d'un être cher, des chagrins de famille, des revers de fortune ou d'autres causes incongrues ont fait échouer dans ce purgatoire dont la porte ne se rouvre guère. Alors ce soir, chers auditeurs, à l'instar de Nelly Bly, préparez-vous à faire votre entrée dans le bal des folles de l'hôpital de la Salpêtrière. Pour mener l'enquête, j'ai falsifié un carton d'invitation si prisé et me suis introduite à cette soirée. J'entre dans l'hôpital de la Salpêtrière. Nous sommes en 1880, me voilà dans une grande salle animée par des personnes déguisées qui dansent sur une musique de Brahms. J'observe et puis j'arrive à entrer en contact avec une femme internée. Nous nous éloignons et à l'abri des regards, elle accepte de me parler. Mais pourquoi êtes-vous ici enfermée, Adélaïde ?
Il y a 45 ans, j'ai déshonoré ma famille. J'ai fugué pour fuir le mariage arrangé avec un vieil homme fortuné. Ils m'ont vite retrouvée et enfermée ici en secret pour sauver l'honneur et ne pas salir le nom de ma famille.
Oh, mon Dieu, mais c'est injuste. Mais pourquoi enferme-t-on ces femmes ici ?
Vous voyez la femme blonde là-bas à gauche ? C'est Victorine, l'aliénée. Elle travaillait pour son mari dans un bordel rue des Lilas. Un jour, avec un client, elle a refusé de lui scalper le mohican, de lui tailler la plume, quoi. Et elle avait déjà 40 ans, elle était usée. Alors son salaud de macro l'a fait interner ici. Et très facilement, grâce à un ami client qui était docteur et qui a décelé de la démence. Il l'a interné pour hystérie aiguë.
Oh, et la très jeune femme là-bas, qui se contorsionne et danse admirablement bien.
C'est Jeanne, Jeanne Avril. Internée, car elle a la chorée de Sydenham, une maladie nerveuse, son corps convulse. Elle fait des mouvements saccadés et involontaires. C'est impressionnant quand ça arrive. Elle a été battue et maltraitée toute son enfance.
Ah, oh, c'est terrible. Et la femme déguisée en arlequin à gauche, pourquoi est-elle ici ?
Victorine, c'est la fille d'un grand homme politique. Tous les jours, elle demandait à son père pour l'accompagner à ses réunions politiques. Et puis elle insistait tellement pour faire des études. Elle a même fini par lui dire qu'un jour, les femmes auraient sans doute le droit de vote. Elle allait trop loin. Son père l'a fait interner pour hystérie. Il avait tellement honte de sa fille malade.
Ah, et cette femme là-bas ? La grande brune qui tourne sur place toute seule face à nous. Pourquoi est-elle internée à l'asile ?
Léopoldine, elle est faiseuse d'ange. Ses voisins l'ont dénoncée. Les gendarmes ont retrouvé des cintres et des aiguilles à tricoter chez elle. Internée directement le soir même.
Cette femme crie. Elle se balance d'avant en arrière dans le coin de la pièce. Oui,
c'est Sidonie. Son mari la battait. Elle bronchait pas, normal. Mais un soir, plus saoul que d'habitude, s'en est pris à leur fils de 2 ans. Il l'a même rendu infirme. Sur le coup de l'émotion, elle lui a planté un couteau de cuisine dans la carotide. Efficace. Bah forcément, elle est désosseuse à l'abattoir des Halles. Elle a le geste précis. Les gendarmes l'ont emmenée sans même passer par un jugement avant.
Elle crie toujours ainsi ?
Ah oui, et en ce moment elle te regarde, intriguée. D'ailleurs, elle te salue.
Ok, pareillement.
Elle n'a pas perdu que sa voix en arrivant ici, mais aussi sa tête.
Mais comment le docteur Charcot vous soigne-t-il ?
Il dit que l'hystérie est une maladie de femme, alors il nous comprime les ovaires et ensuite il les introduise un fer chaud dans le vagin. Et plus classique, la flagellation, les privations de nourriture, les bains glacés. On est solidement attaché, on ne sort pas du baquet comme ça. Sa dernière technique à la mode, qu'il aime présenter à ses confrères lors de ses démonstrations, un vrai spectacle. C'est la stimulation électrique contre la démence furieuse.
Merci Adélaïde pour votre témoignage en cette année 1890. Il me manque les mots pour apaiser les tiens. Je quitte maintenant ce bal des folles de l'hôpital de la Salpêtrière et avance dans le temps pour un retour en 2024, ici dans le studio de l'autre radio, avec mes sorcières. Pour conclure, à l'ère du patriarcat triomphant, toutes ces femmes, ces esprits féminins, indépendants ou rebelles, ont été internées ou encore brûlées. Vous imaginez, elles auraient fait avancer notre société trop vite. Et aujourd'hui, on n'aurait plus de combat. On serait presque chiés, nous les féministes.
Merci beaucoup Cécile pour ce voyage dans le temps. C'est ta première chronique pas drôle, j'ai envie de dire, c'est plutôt réussi.
Merci, ça me tenait à cœur.
Cette chronique, tu dis que tu l'as beaucoup travaillée, tu l'as travaillée pendant plusieurs mois. Tu as des références un peu à nous donner? Sur quoi est-ce que tu t'es appuyée pour sortir tout ça?
Alors, il y a le film de Mélanie Laurent, Le bal des folles. Ensuite, il y a le livre super bien fait de Victoria Mas. Et sinon, c'est pas mal de lecture et de renseignements sur cette époque, le docteur Charcot, Wikipédia.
Il y a podcasts. Un autre film qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui s'appelle Captive,
oui.
Qui est sorti au cinéma, mais tu ne l'as pas vu. Hein,
je ne l'ai pas vu, mais on ne m'a pas dit qu'il était fou par rapport au film de Mélanie Laurent qui est très bien fait.
D'accord. Tu peux rappeler son nom?
Le bal des folles.
Et puis on en discutait pendant la musique, il y avait aussi un moment où on s'était toutes partagées le podcast 2018 sur France Culture. Donc LSD, la série documentaire, c'était Les fantômes de l'hystérie, histoire d'une parole confisquée. Donc ça parle des femmes et puis justement de, pas que de cette époque d'ailleurs, ça traverse un peu ce podcast là. Traverse toutes ces époques. En tout cas, merci beaucoup à toi, Cécile.
Merci.
Donc aujourd'hui, on a parlé de femmes à vélo, des Jeux paralympiques et puis des folles aussi, les folles que nous sommes. les folles que nous sommes.
Moi,
est-ce
oui.
Qu'on nous aurait enfermé ?
Moi, on me dit toujours que je suis folle et je suis en 2024, on me le dit tout le temps. Hein. Tout le temps.
Et ben voilà.
C'est mon quotidien !
Ça y est, t'as fait péter les gains. Margot était très étonnée que ta voix soit si douce pendant sa chronique. En tout cas, messieurs, dames, cette émission se termine et il est temps pour nous de rendre l'antenne. Merci beaucoup à Anna de nous avoir invité cette précieuse Maëlle pour nous raconter son périple à vélo et tous ses questionnements autour de la paysannerie. C'était passionnant. Merci à toi, Margot, de former Morgane à la technique. Toujours forever des sorcières de bout en bout de cette émission, à la chronique, à la technique, au choix des musiques. Merci, Louane, de continuer à nous faire découvrir le sport. Et puis, en tout cas, moi, j'ai bien envie d'essayer le basket fauteuil. Ça doit être mes années de basketteuse d'il y a très longtemps, c'était dans une autre vie. Et puis bah, évidemment, merci à toi Cécile pour cette chronique. En tout cas, je vous donne rendez-vous le mois prochain à 19h sur les ondes de l'autre radio. Donc c'est bien le troisième mardi du mois, ne vous trompez pas, mais sinon c'est très très facile. Vous pouvez l'écouter en podcast sur le www.l'autreradio.fr. En attendant, brossez vos balais et récurez vos chaudrons pour envahir l'autre radio et l'espace public. Sorcièrement vôtre.
Bye bisous, bye bye.
Dieu crée les dinosaures. Dieu détruit les dinosaures. Dieu crée l'homme. L'homme détruit Dieu. L'homme crée les dinosaures.
Les dinosaures mangent l'homme. La femme hérite de la terre.